Bonjour tout le monde.
On est prêt.
Vous avez bien dormi?
Vraiment mieux, oui.
Quelle magnifique fin de semaine, n'est-ce pas? Tout était là. Un bon conférencier, de la bonne nourriture, un soleil radieux, des couleurs de l'automne. Quelle fin de semaine magnifique. Comme il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et ce matin, nous allons célébrer celui qui a permis cette fin de semaine. Alors, nous, chrétiens, croyons que l'univers n'est pas l'œuvre du hasard, mais l'acte miraculeux et grandiose d'un Dieu créateur. Nous croyons que rien n'est impossible à ce Dieu puissant et glorieux. Le Dieu digne de toute gloire en qui nous pouvons avoir confiance nous convoque à tous les dimanches pour venir le glorifier, lui demander pardon, le remercier, l'entendre et recevoir sa bénédiction. Nous avons eu des conférences sur les psaumes, et plusieurs psaumes utilisent la nature autour de nous et au-dessus de nos têtes pour célébrer la grandeur et la magnificence de notre Dieu. Dieu lui-même fait référence à sa création pour amener le peuple à le louer. Et à cause de cette magnificence, les êtres humains sont sans excuse de ne pas croire en lui et l'honorer. Écoutons Romains 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et dans leur cœur, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les psaumes ont été écrits à une époque où on ne connaissait pas encore l'immensité de l'univers et sa beauté infinie. Alexis, la prochaine. Oh. Alors, les nouveaux télescopes spatiaux nous révèlent un cosmos encore plus grand qu'on pensait et à couper le souffle de beauté. Combien aujourd'hui les êtres humains sont sans excuse pour nier Dieu? Comment un univers si grand a pu émerger du néant? L'univers crie son nom. Je vous invite à vous lever. Dieu nous convoque. Écoutons le psaume 104. « Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure. Il prend les nuées pour son char. Il s'avance sur les ailes du vent. » Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Oui, mon âme, bénis l'Éternel. Chantons.
S'élever devant ce qui m'attend et ce
Continuons notre lecture dans le psaume 104. L'Éternel a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur avais fixé. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent pas franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Chantons la toute-puissance de notre Dieu.
Tout puissant, que tu es grand, quand par les
J'invite maintenant un temps de louange. Je vais ouvrir le temps de ce temps et le terminer, mais j'aimerais que plusieurs personnes puissent s'exprimer pour louer notre Dieu. Prions. Oui, Seigneur, tu es un grand Dieu, puissant, magnifique, et nous te louons pour ton œuvre autour de nous. Seigneur, tu es grand, mais tu es aussi un Dieu compatissant, près de nous. Merci de faire partie de ta famille. Merci de ta révélation en Jésus-Christ. Seigneur, écoute les prières de louange de ton peuple. Merci encore, Seigneur, pour la création autour de nous qui se révèle encore plus grande et plus magnifique que jamais. Et merci pour la révélation particulière qu'est ta parole. Seigneur, que nous honorions cette parole ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies. Et merci pour le fait que ton Saint-Esprit nous aide à comprendre et appliquer cette parole. Merci, Seigneur, du privilège que nous avons tous d'être ici devant toi. Amen. Comme lecture de confession des péchés, nous allons lire Luc 5, les versets 1 à 9. Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézaret, il vit au bord du lac deux petites barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. À la démonstration de la puissance de Jésus-Christ, Simon se rend à l'évidence. Jésus est de nature divine. Alors, Pierre prend peur. Si Pierre a devant lui celui qui commande même aux poissons du lac, c'est qu'il a aussi devant lui une personne qui connaît le cœur de l'homme, dont son propre cœur à Pierre. Comme Pierre se sait pécheur, il prend peur. Éloigne-toi de moi. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Pierre avait raison d'éprouver de la crainte. Nous devons éprouver de la crainte, une saine crainte, qui nous fait réaliser que nous avons besoin d'un pardon. Je vous invite à vous confesser tout en chantant le psaume 51. Regardons la suite du texte dans Luc 5. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramènent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. À Pierre qui a eu peur de Jésus à cause de ses péchés, Jésus dit, « N'aie pas peur » et annonce à Pierre qu'il sera pêcheur d'hommes. À ceux comme Pierre que Dieu a choisi, il donne le pardon et le salut, un pardon et un salut sûr et certain. Nous n'avons plus à craindre car Jésus défend notre cause au ciel. Il nous a rachetés, il ne changera jamais sa décision envers nous. Nous apparaîtrons devant son trône avec confiance. Je vous invite maintenant à un temps d'offrande. Alors, cette année, j'ai suggéré qu'on donne un peu d'argent à un organisme qui s'appelle Canadian Food Grain. C'est un organisme de l'Ouest canadien qui regroupe plusieurs églises et ils œuvrent partout dans le monde quand il y a des besoins en Ukraine ou en Éthiopie. Ils sont là. Alors, je vous invite à donner. Je m'excuse, j'ai pas eu une bonne nuit et j'ai passé mon texte avant de demander de passer l'offrande. Voici ma réflexion. Jean le Baptiste a eu comme mission de préparer la venue du Sauveur, notamment en appelant le peuple à la repentance. Et je vais lire Luc 3, le verset 3 à 11. Il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés et toute chair verra le salut de Dieu. » Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham comme père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. » Les foules l'interrogeaient, « Que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » C'est particulier. Un des gestes de repentance que Dieu demande au peuple est associé à la générosité. Notre Seigneur apprécie la générosité. Générosité envers les pauvres et la générosité au profit du royaume. Est-ce que quelqu'un pourrait prier pour cette offrande? Je vais le faire. Seigneur notre Dieu, merci pour la richesse que nous avons. Nous ne réalisons pas pleinement combien nous sommes riches dans ce monde. Nous sommes dans le 1% de toute cette planète. Seigneur, les dons que nous avons faits vont être acheminés à un organisme qui œuvre dans le monde entier pour soulager la faim et la misère. Et Seigneur, bénis particulièrement nos frères et sœurs dans le monde qui souffrent de pauvreté, de malnutrition ou de la guerre et des conséquences tragiques du péché. Nous voulons te remettre toutes choses en ton nom. Amen. Alors, en préparation à la prédication, implorons Dieu qu'il ouvre nos cœurs à sa parole et qu'il assiste celui qui nous livre cette parole. Je vous invite à chanter infiniment grand et les enfants peuvent aller à la garderie.
Il va y avoir aussi un groupe d'école du dimanche là, pour les 5-7 ans au même endroit. C'est ça?
Oui, pour les 3-4 ans, ça va être avec moi. 5 à 7 ans.
C'est avec moi.
8 à 10 ans, Nathalie.
Yes, au même endroit que hier, dans le fond. Fait que ça peut être un déplacement pendant la chanson.
Alors mon âme veut s'écrier. je songe que tu m'as fait.
Merci à nos musiciens et merci aussi à Normand d'avoir préparé le début de cette célébration. Et j'ai l'impression que je ne vais rien dire de plus de ce qui était déjà dit au sujet de notre Seigneur, de l'Évangile et aussi la beauté de la création. Comme annoncé, notre prédication va porter sur le psaume 8. Est-ce que nous aurons le psaume 8 sur l'écran? Si oui, nous pouvons le lire en verset. Non, nous ne l'avons pas. Alors, je vais le lire, le psaume 8, qui était déjà en référence pendant le début de ce culte ensemble, qui célèbre évidemment la création. On dirait que c'est le thème de notre retraite de famille cette année. Le psaume 8. Au chef de chœur, un psaume de David à chanter avec accompagnement de la harpe de Gad. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus, ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce un être humain pour que à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tout bétail, gros et petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre entière. Amen. On pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je pourrais dire plus de manière aussi admirable que ce psaume que certains ont appelé le plus beau poème dans l'histoire du monde. Vous avez remarqué, le psaume 8 commence et termine par la même phrase. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable
sur la terre tout entière. C'est un peu le cadre, le thème annoncé et répété qui encadre donc ce psaume. Dans les versets qui suivent cette acclamation, David précise les causes de son émerveillement qui transverse tout le psaume. Son émerveillement. Pourquoi il s'émerveille? Et il nous encourage à nous émerveiller dans la joie et dans la confiance avec lui. Une première raison est signalée au verset 4. David dit « Quand je contemple le ciel, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné des étoiles et la lune que tes mains ont disposées. » David nous invite à vivre l'expérience que lui-même a sans doute connue lorsqu'il était berger et gardait les troupeaux dans les champs, jour et nuit. Il avait l'occasion de regarder le ciel étoilé et se laisser impressionner par l'immensité de la création. Aujourd'hui, à cause des pollutions, nous voyons moins bien le ciel étoilé que David. À moins de partir au loin, comme dans le Grand Nord ou dans les pays africains que j'ai eu l'occasion de visiter quand il n'y a pas de lumière autour et on a l'impression que les étoiles sont tellement brillantes qu'elles sont à la portée de main. Mais aujourd'hui, malgré la pollution, nous avons un avantage que David n'avait pas et que Normand a mentionné dans l'introduction. Nous pouvons admirer les images des étoiles et des galaxies renvoyées par les lointains télescopes dans l'espace. J'ai une photo que je garde, que j'apprécie particulièrement et que je garde dans ma Bible, n'est-ce pas? Je vous le montre au loin, vous voyez, c'est les trois galaxies qui sont tous ensemble, n'est-ce pas, lointain. Et pourquoi je la garde dans ma Bible? Parce que des fois, je suis un peu déprimé par les nouvelles, n'est-ce pas, que nous recevons au sujet de la vie politique dans le monde, au sujet des crises climatiques. Et je prends cette photo, n'est-ce pas, de ces trois galaxies proches l'une de l'autre, et je me dis, c'est mon frère aîné qui a fait ça. Je peux faire confiance. Voilà, ces trois galaxies, on les appelle les triples galaxies proches l'une de l'autre. On dit proche, mais dans l'espace, cette proximité est toute relative, car on mesure les distances entre les étoiles et encore plus les galaxies en années-lumière. Alors, qu'est-ce qu'une année-lumière, pour nous donner une idée? Imaginez qu'au 1er janvier, vous partez un matin très tôt pour conduire en voiture jusqu'à Charlottetown, île du Prince-Édouard, 1000 km. Passez toute la journée. Vous arrivez, vous dormez à Charlottetown et le 2 janvier, vous rentrez sur Montréal. Et le 3 janvier, vous le refaites. Et tous les jours de l'année, vous faites l'aller ou le retour à Charlottetown, île du Prince-Édouard, 1000 km. Sauf le dimanche, vous reposez le dimanche. Vous aurez parcouru une très longue distance, n'est-ce pas, pendant toute cette année, des allers-retours sans arrêt. Si un ami vous pose la question, vous dites, je fais beaucoup de kilomètres. Bien, tous ces kilomètres que vous avez faits pendant l'année, ça ne représente qu'une seconde lumière. Le temps que la lumière prend pour pour faire 300 000 kilomètres. Dans le monde des étoiles et des galaxies, les distances sont tellement grandes qu'on ne compte pas en secondes de lumière. C'est trop court. On compte en années-lumière, n'est-ce pas? Et les zéros, ça se cumule. Et c'est étourdissant pour nous, même d'y penser. Ça nous donne le vertige. Notre galaxie, qui s'appelle la Voie lactée, qu'on a pu admirer hier soir, n'est-ce pas? Notre galaxie s'appelle la Voie lactée, et les scientifiques nous informent que notre galaxie de taille moyenne, avec ses 100 milliards d'étoiles, est d'une grandeur de 200 000 années-lumière. Donc ça, c'est notre chez-nous, n'est-ce pas, dans le cosmos. Ça, c'est notre Voie lactée, 200 000 années-lumière. La galaxie voisine de la Voie lactée s'appelle la galaxie Andromède. Et on peut la voir même à l'œil nu, hein, le soir, hein, à condition de ne pas être à côté des lumières. Ça, c'est notre voisin. Elle est proche de nous. Elle est, comme on dirait, notre voisin de quartier dans l'univers. C'est un peu comme si quelqu'un était à côté de moi. Moi, je suis la Voie lactée, cette personne à côté de moi, voisin mitoyen, c'est la galaxie Andromède. Et la galaxie Andromède, c'est notre voisin parce qu'elle n'est que 2,5 millions d'années-lumière. Notre voisin. La galaxie qui pourrait nous embêter éventuellement, n'est-ce pas? Tellement elle est trop proche. Ça nous donne le vertige. David ne savait pas tout ça. Mais son appel à nous émerveiller de la grandeur de l'univers garde toute son actualité. En considérant l'immensité de l'univers, David nous invite à nous émerveiller de la grandeur de notre créature. Et David décrit cet acte créateur avec une grande beauté poétique. Il dit, « Quand je contemple le ciel, que tes doigts, Dieu, est-ce que Dieu a des doigts? Non. Mais le psalmiste utilise l'image des doigts pour dire à quel point Dieu est plus grand même que les galaxies qui nous donnent le vertige par leur distance. Il dit, quand tu as façonné le monde créé avec tes doigts. Et il nous invite à imaginer que Dieu avec ses doigts place la Voie lactée là, n'est-ce pas? Il forme et puis il dit voilà. Et puis, ils ont besoin d'un voisin. Donc, je vais mettre la galaxie Andromède à côté. Et puis ensuite, très, très loin, n'est-ce pas, les autres, avec les doigts, n'est-ce pas, pour montrer à quel point Dieu est plus grand. Ses doigts, c'est incroyable. Quand je contemple les galaxies proches et lointaines que tes doigts ont façonnées, David nous invite à la louange, à l'émerveillement et la fierté d'appartenir à un Dieu d'une telle grandeur créatrice, une grandeur qui dépasse notre imagination. Dans le verset 5, David donne une deuxième raison de son émerveillement. Quand je contemple le ciel, quand je contemple les galaxies, je me demande, qu'est-ce que l'homme? Je me dis, qu'est-ce que l'être humain? David dit, « Lorsque je contemple les étoiles, je me sens petit, très petit. » Et nous partageons cette même impression avec David. Notre petitesse minuscule sous les étoiles nous fait poser cette même question. Qu'est-ce que l'être humain ? Qui suis-je pour que tu t'y intéresses et que tu en prennes soin ? Littéralement, le texte dit « Qu'est-ce que l'être humain pour qu'il reste au centre de tes préoccupations ? Pour que l'être humain reste constamment présent à ton esprit. C'est un peu comme une maman qui se préoccupe pendant la nuit en tout temps de son nourrisson, n'est-ce pas? Elle dort avec une oreille ouverte, n'est-ce pas? Vous qui êtes parents, vous avez fait cette expérience. En anglais, nous avons une expression « on the forefront of his mind », c'est-à-dire là, hein? Toujours pensant à la personne dont on s'occupe. Et c'est le verbe que le texte en hébreu utilise. Ça? Toujours préoccupé, ce grand Dieu de l'espace, du cosmos, des galaxies, a quelque chose qui le préoccupe en tout temps. Et mon frère, ma sœur, c'est toi. Ah oui, alors ça, c'est le double émerveillement. Il y a la grandeur de l'œuvre de Dieu et il y a la grandeur de sa préoccupation de nous. C'est l'interrogation du chant que nous avons chanté tout à l'heure. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, et on pourrait dire qu'un Dieu si grand se préoccupe jour et nuit de moi, se préoccupe de moi en tout temps. Il m'a toujours, il t'a toujours en tête. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés si petits dans un univers si grand? Nous en avons parlé hier après-midi. Pour que nous soyons émerveillés de sa grandeur, certes, mais plus encore par l'extraordinaire grandeur de son amour qui sait franchir cette immense distance entre sa sainteté et sa grandeur et notre petitesse, notre besoin de pardon. Nous pouvons nous émerveiller encore plus que David par la question « Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'y intéresses et que tu en prennes soin ?» Plus que David, non seulement à cause de nos télescopes, mais surtout à cause de Jésus, l'abaissement de Jésus, Jésus rendu tellement petit comparé à sa grandeur, depuis sa naissance jusqu'à la croix, l'extraordinaire distance, on pourrait dire les années-lumière, que Jésus a traversé, a franchi pour devenir un être humain comme nous, par qui Dieu prend soin de nous, corps et âme. Le psaume 8 nous appelle à l'émerveillement devant la grandeur de Dieu révélée par la création. Et ce psaume nous invite à nous émerveiller qu'un Dieu si grand s'intéresse à nous et prenne soin de nous, ses créateurs si petits. Et David indique une troisième raison pour son émerveillement. Malgré notre faiblesse, malgré notre petitesse, Dieu nous accorde une place de grand honneur dans sa création. je lis, « Tu as fait de peu, tu l'as fait, l'être humain de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Dieu, tu donnes à l'être humain de régner sur les œuvres de ta main, bétail, animaux sauvages, oiseaux, poissons de la mer. De peu inférieur à Dieu, dit le texte. Malheureusement, Adam et Ève n'ont pas voulu rester inférieurs à Dieu. Satan les a convaincus que leur petitesse comparée à la grandeur de Dieu était une humiliation et qu'ils devaient s'efforcer de devenir grands, grands comme Dieu. Le problème d'Adam et Ève n'était pas qu'ils étaient trop petits, mais qu'ils voulaient devenir trop grands. Le problème d'Adam et Ève, ce n'était pas qu'ils étaient trop petits, mais qu'ils voulaient être trop grands. S'ils avaient accepté leur petitesse relative en comparaison avec Dieu, ils n'auraient pas mis en risque leur place d'honneur accordée par Dieu. La tentation de vouloir devenir plus grand, la tentation de devenir plus grand, oui, cette tentation aurait dû leur faire peur, plus que la peur de rester petit, inférieur à Dieu. Mais non, ils se sont lancés dans cette folie de vouloir être aussi grand que Dieu. Dieu, pour sa part, n'a pas peur de ce qui est petit et humble. Au contraire, c'est son outil favori pour montrer sa grandeur et sa puissance. David écrit de la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, des plus petits. Tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires. En écrivant ces lignes, peut-être David pensait à ses propres expériences lorsqu'il était petit. Plus jeune, plus petit que ses grands frères, plus petit pour qu'on prenne même la peine de venir le chercher lors de la visite du prophète Samuel. Vous connaissez cette histoire. Ah ben non, on va le laisser le petit avec les brebis. Ça, il est trop petit, ce David. Et Samuel a dû le rappeler des champs parce que c'était le petit. Choisi par Dieu. David, peut-être que David pensait à ça en écrivant ces lignes, ou peut-être qu'il pensait aussi à sa rencontre avec Goliath. Encore trop jeune et trop expérimenté pour porter l'armure de Saül, il part comme ça, sans armure, descendant à la rencontre de Goliath. Et on peut imaginer, dans son entourage, les gens le regardent et posent la question, qu'est-ce qui fait le petit? Mais non, il est fou ce petit. Il faut aller le chercher, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Goliath va faire avec ce petit? Ah oui, le petit méprisé. Toute l'histoire biblique montre que Dieu aime ce qui est petit et humble. Il aime prendre ce qui paraît dérisoirement petit, sans valeur apparente, pour montrer sa puissance. C'est ce que Moïse a dit au peuple en Deutéronome 7. Il a dit, pourquoi Israël, pourquoi Dieu vous a choisi? Hein? Deutéronome 7. C'est nullement parce que vous êtes grand. C'est nullement. C'est souligné dans le texte. C'est nullement. Ne pensez pas que parce que vous êtes grand, en fait, vous êtes la plus petite née des nations. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons, si on peut dire, pourquoi Dieu l'a choisi. David et tant d'autres personnages de l'Ancien Testament sont des préfigurations de Jésus, lui qui a quitté sa grandeur pour naître dans une étable et mourir sur une croix. Comme l'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 1, une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu, la puissance de Dieu dans l'apparente faiblesse de Jésus, par laquelle il a détruit les puissances et les forces du mal et du péché. Et c'est peut-être pour cela que l'apôtre Paul lui-même n'a pas peur de parler de ses faiblesses. Paul avait une petite santé. Nous ne savons pas exactement quelle était son infirmité, mais il était souvent malade. Et en réponse à sa demande de guérison, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Et c'est pourquoi Paul peut poursuivre dans son témoignage en 1 Corinthiens 12 en disant, « Je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis réellement fort dans la force de Dieu. » Les messages que nous recevons par les médias essaient de nous convaincre du contraire. Quels sont ces messages? Montre-toi intelligent, montre-toi beau, montre-toi belle, aie confiance en toi-même, sois fier de tes acquisitions, assure-toi même par ta force, ta valeur et ton honneur, ton bonheur. Message que nous recevons continuellement. L'apôtre Paul, lui, nous appelle à reconnaître notre petitesse, notre vulnérabilité, nos limites physiques, intellectuelles et même nos erreurs et nos égarements. N'essayez surtout pas de cacher vos faiblesses, car c'est dans votre faiblesse que Dieu va montrer sa puissance en vous et par vous. Vos faiblesses sont la matière première de l'œuvre de Dieu dans votre vie. C'est là la troisième raison de notre émerveillement. Malgré notre petitesse et nos faiblesses, Dieu nous donne une place de grand honneur dans son royaume. Dieu, écrit David à la fin du psaume, Dieu, tu donnes à l'être humain de régner sur les œuvres de tes mains. Que veut dire régner? Beaucoup de choses, mais surtout deux choses. Premièrement, régner avec le Christ veut dire renoncer au péché qui s'accroche si facilement à nous. Et cette tendance humaine égocentrique de chercher en priorité ses propres désirs, ses propres plaisirs, ce que nous avons appelé le péché, hier, le péché originel, le maudit moi d'abord, qui est si facilement ancré et enraciné dans nos cœurs. Régner, c'est régner sur le péché et le mal en nous et dans le monde. Ensuite, par son exemple et son enseignement, Jésus nous montre comment régner par une vie de service. Jésus nous appelle à nous joindre à son équipe, à son peuple de service. Il nous appelle, comme lui, à résister au mal et au péché et à devenir, à être ses servantes et ses serviteurs dans le monde. Parce que notre vocation vient de Dieu, le grand Dieu créateur et notre sauveur, nous pouvons nous y engager avec confiance, là où nous nous trouvons, dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans notre voisinage et dans notre Église. En conclusion, le psaume 8 nous appelle en premier lieu à célébrer avec émerveillement la grandeur de notre Dieu créateur. Ensuite, il nous appelle, il nous invite à nous émerveiller de sa considération pour nous, nous qui sommes si vulnérables et petits. Et enfin, nous nous émerveillons parce que Jésus nous prend avec lui dans son équipe de service royal où sa force s'accomplit dans notre faiblesse. Le psaume 8 termine comme il a commencé, par l'essentiel, par un rappel de ce qui est le plus important, la grandeur de Dieu. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre entière. Amen.
Je vous invite à vous lever, nous allons chanter « Oh, ce nom si merveilleux ».
Amour a vaincu le péché, le rien de
trembler, vas-tu déchirer, devant la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le ressuscité. Tu es sans rival, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
Harold vient de nous enseigner que Dieu peut se glorifier dans notre faiblesse. Comme vous le savez, nous sommes à l'Église réformée du Québec, 100 pasteurs dans 3 églises. Nous sommes un peu faibles, mais quand je vois tant d'enfants, je me dis qu'on a de l'avenir. Est-ce que 2 personnes pourraient prier pour notre dénomination, s'il vous plaît? Amen. Oui, Seigneur, tu es un Dieu de compassion. Tes compassions se renouvellent chaque matin. Seigneur, nous te demandons ta bénédiction sur notre Église, que tu la vivifies, Seigneur. Nous sommes aussi dans une société qui a rejeté le bébé avec l'eau du bain. Il est difficile d'être témoin dans un monde qui te rejette sans cesse. Mais dans cette situation de faiblesse, Seigneur, nous savons que tu vas démontrer ta puissance. Nous savons, Seigneur, que tu te glorifieras de cette faiblesse. Merci parce que ta grande puissance est à notre service. Donne-nous d'être de fidèles témoins de ta personne, de ta bonté, de ta justice, de ton amour. Nous te remettons toutes choses au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes à l'Église réformée du Québec, une église confessante. Je vous invite à vous lever. Alors, je vais dire ce qui est en blanc. Vous répondez ce qui est en jaune. Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons avec Jean-Baptiste.
Voici l'agneau
de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André. Avec Nathanaël. Avec les Samaritains. Avec Pierre. Avec Thomas.
Je
vous invite à un dernier chant à l'agneau de Dieu. Thank you. Recevons la bénédiction de l'Éternel, tirée de 2 Thessaloniciens 3. Comme rien n'est impossible à Dieu, cela nous assure la paix. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen.
Donc, vous pouvez vous asseoir pour quelques petites annonces.